Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Cette semaine, nous avons choisi de mettre à l'honneur sur notre antenne, du 1er au 7 avril, la semaine étudiante de la durabilité, SEDD, qui a lieu à l'UTC, mais pas seulement à l'UTC, puisqu'à la base, cette semaine est nationale. C'est un groupe de 6 étudiants de l'UV DD01 pour Séminaire Développement Durable qui organise cette édition. On va essayer de vous en parler toute cette semaine. Ce vendredi, on reçoit un enseignant-chercheur de l'UTC. On en parle juste après. Le générique. Toujours. Toujours. Toi, mon survivant. Une nouvelle ère a commencé. Dans ton corps, puce électronique. Ce matin, nous allons parler d'éco-conception avec Yacine Baouche, enseignant-chercheur à l'UTC. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On va revenir très succinctement sur qu'est-ce que l'éco-conception, comment on peut simplifier du coup un peu l'explication de l'éco-conception.
Alors si on veut expliquer assez facilement ce que c'est l'éco-conception, on est obligé de parler un petit peu de ce qu'est la conception en général. Et pour un ingénieur, de façon assez classique, c'est satisfaire le besoin d'un client, d'un consommateur, en faisant en sorte que cette solution, elle respecte de façon très classique les coûts, la qualité et les délais. C'est-à-dire faire un produit que le client peut acheter, remis dans les temps et par qualité, on entend, qui permette de satisfaire le besoin.
Donc la qualité évolue en fonction du temps, en fonction de la période dans laquelle on va produire l'objet. Est-ce que du coup, ce qui était de qualité hier n'aura pas la même qualité aujourd'hui?
Oui, clairement, les attentes du client évoluent. Donc finalement, ce sur quoi on était... Ce qu'on attendait avant a forcément évolué et j'allais dire maintenant ça ne nous gêne pas d'avoir un appareil électronique qui dure qu'une année alors qu'avant ça aurait été plutôt un critère qui faisait qu'on l'achète.
C'était rédhibitoire avant, maintenant l'obsolescence programmée, alors bon, on n'a plus le droit de faire, on n'a pas le droit dans les lois de faire de l'obsolescence programmée. Là du coup le thème de cette semaine là sur cette semaine étudiante de durabilité, pourquoi les étudiants ont choisi de vous mettre à l'honneur et du coup quel est le rapport avec votre cours?
Bah, du coup, sur les étudiants sont vraiment très intéressants, et en particulier à l'UTC, c'est qu'ils ont compris que le mode de production, le mode de consommation, le mode de développement actuel ne peut pas rester éternel. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini avec des ressources finies. Et du coup, parmi le pléthore de solutions qui existent, on a l'éco-conception qui est de toujours essayer de concevoir des produits, donc satisfaire des besoins. Mais en plus du coût de la qualité et des délais, on va prendre en compte la dimension environnementale. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le produit qu'on conçoit a un impact plus faible sur l'environnement que si on n'avait pas du tout pris en compte cette contrainte.
C'est pour ça que quand on dit éco-conception, on parle de la conception pour l'environnement.
C'est ça, c'est un autre synonyme. Conception centrée sur l'environnement.
Donc du coup, le but, c'est qu'on parle de quelle mesure, comment on mesure l'impact d'un objet ou d'une conception sur un environnement. C'est quoi, c'est sur l'utilisation de carbone, c'est quoi exactement?
Mais c'est ça, toute la complexité, mais que moi je trouve passionnante, c'est que la notion d'environnement, elle est complexe. Par définition, on n'arrivera jamais à la définir en simplement une phrase. Parce que l'environnement, c'est les animaux, les humains, c'est aussi les ressources naturelles, c'est aussi les relations qui vont exister entre elles. Et ça va être tout ce qui va toucher au cadre d'un individu, la beauté d'un paysage, les nuisances sonores. Et en fait, par environnement, on va essayer de trouver des moyens, trouver des indicateurs pour prendre en compte cet ensemble qui est plutôt compliqué. Donc de façon assez classique et qui est très connue, on a l'impact carbone, qui va être la production, qui correspond à peu près à la production de gaz à effet de serre, parce que c'est un phénomène qui a été...
Calculé et démontré, oui.
Démontré, et surtout qui est assez à la mode, qui est dans les priorités actuelles, mais on va prendre en compte aussi, par exemple, la consommation d'eau. Derrière, par exemple, un jean, on a une consommation d'eau pour pouvoir produire ce jean. Derrière un kilo de viande, on a, je crois, de souvenir, 15 000 litres d'eau pour produire ce kilo de viande.
Le café aussi, je crois, est assez énorme sur la production de café.
Oui, du coup, quand on prend tout en compte, on a l'impact de l'eau, mais on peut avoir aussi l'acidification des eaux, le phénomène d'eutrophisation. Donc derrière ce gros mot, c'est complètement le phénomène des algues vertes qu'on peut avoir en Bretagne. On va mettre trop de nutriments dans l'eau, et en fait, les algues vont se développer, ça va avoir des conséquences du coup sur la faune, parce qu'on va avoir les poissons qui auront moins d'oxygène pour vivre, et aussi sur la beauté des paysages avec des plages vertes.
Du coup, on met le curseur d'éco-conception un petit peu là où on souhaite, là où on veut. Il y a des directives européennes, mondiales. Ça se passe comment, quel est l'horizon pour les éco-concepteurs?
Il y a des directives, par exemple européennes. On va parler de méthodes d'évaluation, donc qui sont normées, qui sont transparentes, qui sont issues de travaux de recherche, où on a certaines méthodes qui vont nous dire, bah voilà, il y a 15 indicateurs qu'on va prendre en compte. Ils sont complets parce qu'ils touchent à la fois aux humains, à l'eau, à l'extraction des matières premières. Et avec ça, on a un panel qui nous donne quand même une bonne représentation de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Mais on est toujours sur quelque chose de partiel, puisque par définition, c'est compliqué de prendre en compte.
Ouais, c'est multicritère, en fait. Là, pour les humains, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est également le social. Est-ce qu'on rentre dedans le travail des enfants, le travail, du coup, les salaires, ce genre de choses?
Non,
c'est uniquement le retour qu'il va y avoir sur l'humain, quoi. Savoir si ça...
Sur l'environnement en général. Donc vraiment, l'éco-conception, sur la définition qui est couramment utilisée, c'est on va se centrer simplement sur l'environnement. Après, ce que je dis toujours aux étudiants, c'est qu'on peut éco-concevoir un produit, tenir compte de l'environnement et faire travailler des enfants, payer un centime le mois. C'est pas une réponse seule, c'est pas une solution magique, c'est un élément parmi tant d'autres.
Donc ça, les industriels doivent y réfléchir, doivent savoir quel cahier des charges ils vont mettre dès le départ. Est-ce qu'il vaut mieux aller faire du coup travailler les enfants, mais que ça soit bon pour l'environnement, ou faire quelque chose d'un peu moins bon pour l'environnement en Europe, avec pas de travail d'enfants et puis des droits sociaux?
On n'en est pas encore là sur les aspects d'éco-conception. Il y a peu ou pas, on va dire, pas de réglementations qui vont imposer un industriel absolument à suivre certains cahiers des charges. C'est souvent le critère coût qui va déterminer. Mais ce n'est pas si négatif que ça, parce qu'on a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont commencé des démarches d'éco-conception avec un objectif de simplement réduire des coûts, parce que quelquefois, ça peut être compatible. Et c'est un peu la stratégie du pied dans la porte ou du cheval de Troie. Une fois qu'on a commencé, on se dit, tant qu'à faire, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Et à la fin, je vais éco-concevoir un produit sans forcément avoir comme critère principal de gagner de l'argent.
C'est quelque chose de nouveau? Ça existait depuis longtemps? Est-ce qu'on pense à la révolution industrielle? Est-ce que déjà, à cette époque-là, ils pensaient à toute cette éco-construction? Est-ce qu'ils avaient peut-être une autre définition de l'éco-construction?
Non, c'est assez récent, j'allais dire, sur le dernier siècle. Ça doit faire... Rapport Brundtland sur le développement durable, c'est dans les années 87 à peu près. Donc ça fait une trentaine d'années qu'on a vraiment pris en compte ces aspects-là. Mais si on essaye de chiffrer, si on fait un petit peu d'histoire économique, longtemps les produits, ils étaient conçus, on en parlait tout à l'heure, hein, d'un point de vue de qualité. Le but, c'est les gens acheter parce que ça allait leur rendre un service. Et on est arrivé à un moment où on avait une saturation, tout le monde avait un lave-linge. Du coup, l'objectif, c'est que les gens consomment. Donc on a commencé à essayer de réduire les coûts. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, on a eu un problème en termes de ressources. Donc, l'éco-conception est venue avec les problèmes, en fait.
On pense toujours à cette image de la lampe, enfin de l'ampoule allumée depuis 100 ans, bon, qui éclaire plus beaucoup aujourd'hui, mais ça fait plusieurs années, centaines d'années, je crois que ça fait 120 ans qu'elle est allumée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait concevoir des produits qui durent dans le temps, notamment, je sais pas, je pense à l'électroménager ou ce genre de choses.
Mais complètement, il y a une petite start-up française qui est très intéressante, qui s'appelle L'Increvable, qui est en train de chercher à concevoir une machine à laver qui doit durer 50 ans. C'est un petit peu ça l'objectif. Et il y a un stagiaire de l'UTC qui a fait son stage de TN10 chez eux.
Et c'est le stage de fin d'études.
Oui, le stage de projet de fin d'études dans le sein de l'entreprise. Et une des premières actions qu'ils ont menées dans cette start-up, c'est d'abord démonter les machines à laver qui existent, contacter des services après-vente pour voir un petit peu les différents problèmes qu'ils peuvent avoir. Et on s'est aperçu, enfin, ils se sont aperçus que le tambour de la machine à laver, il permet de tourner grâce à une pièce qui est un roulement à billes. Donc c'est à peu près ce qu'on peut retrouver dans les axes de roue de vélo. Et que cette pièce-là, le service après-vente est capable d'estimer que c'est celle-là qui cassera le premier. Et la majorité des pannes, c'est cette pièce-là qui est défectueuse. Sauf que pour baisser les coûts sur des machines à laver d'entrée de gamme, cette pièce-là ne peut pas être changée. Du coup, si on a les moyens techniques de pouvoir faire un produit qui dure plus longtemps, simplement rien qu'en le rendant réparable.
Donc là, c'est quoi? C'est un choix des industriels de l'avoir rendu irréparable, ou c'est pour automatiser, pour simplifier en fait la conception à la base? Où il y a les deux?
Je pense que c'est surtout pour un objectif de coût. C'était plus facile et ça permettait d'avoir des marges plus importantes si on avait une conception où on noyait, parce que le roulement à billes est noyé dans le plastique.
Du plastique.
Du coup, coup, c'était plus facile pour eux et ça leur coûtait moins cher de faire ça que de le rendre réparable.
C'est vrai qu'une machine à laver, c'est assez simple en soi. En fait, un tambour, un moteur, une pompe, une résistance pour chauffer l'eau et puis après un système programmable. Mais il n'y a pas grand-chose dans une machine à laver concrètement.
Non, clairement, c'est des machines qui peuvent vraiment durer extrêmement longtemps. Et la démarche de ces startups est intéressante, c'est que on n'est pas dans un objectif d'avoir une machine sur sa première version qui durera 50 ans, mais c'est vraiment se poser la question comment je peux faciliter la réparation de cette machine qui est vraiment intéressante.
Comment vous êtes venu à ce sujet de recherche et à ce sujet d'études pour le diffuser à des étudiants? Comment vous êtes dit un matin, l'éco-conception, ça m'intéresse?
Mais en fait, moi j'ai une formation d'ingénierie mécanique plutôt classique. Et en fait, c'est à un moment donné où je me suis rendu compte que concevoir des boîtes de vitesse, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, parce que j'ai un ancien de mes profs qui disait que la mécanique, le siècle de la mécanique est passé. C'était l'invention de la machine à vapeur et après, c'est fini, on n'a plus tellement d'innovation. Par contre, à partir du moment où on essaye de prendre en compte l'environnement, on commence à devoir innover, on doit revoir les conceptions de produits. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé.
Dans l'éco-conception, on rentre le biomimétisme. Est-ce qu'on utilise un peu ce que déjà la nature nous apporte? Est-ce qu'on sert de ça pour concevoir?
On ne va pas le rentrer directement. C'est-à-dire que je peux faire du biomimétisme pas éco-conçu. C'est, par exemple, si jamais je n'ai pas besoin de me donner un produit qui est bio-inspiré, si je n'en ai pas besoin, ce n'est pas de l'éco-conception. Par contre, le biomimétisme, c'est un des axes qui va être très intéressant pour nous aider à revoir la conception de notre produit et s'interroger sur est-ce qu'il n'existe pas d'autres moyens pour atteindre ce service.
Là, aujourd'hui, vos étudiants, c'est plutôt des étudiants qui... C'est quoi? C'est des gens qui font la méca? C'est quel type d'étudiants?
Actuellement, dans l'UV où j'enseigne, elle est principalement dédiée aux ingénieurs, enfin, l'ingénierie mécanique, donc qui se dirige vers une carrière en ingénierie mécanique et en ingénieur, mais à tous les niveaux, en conception, en production. Mais il y a d'autres initiatives, il y a d'autres enseignants qui vont travailler, par exemple, sur les procédés, essayer de faire en sorte d'avoir des procédés avec des impacts plus faibles. C'est beaucoup plus grand que ça.
Donc là, aujourd'hui, les étudiants qui arrivent savent déjà ce qu'ils vont faire à la sortie de vos cours ou ils le prennent un petit peu en cours généraux?
Je pense que l'UV, elle est conçue pour être pris plutôt en fin de cursus. C'est-à-dire que l'étudiant a déjà une idée du métier qu'il a envie de faire et il aimerait bien se rajouter une casquette sur comment prendre en compte l'environnement.
On essaie de plus en plus de former des ingénieurs plutôt que créer des ingénieurs. Former les ingénieurs tournés vers l'humain. Vous, votre filière, vous êtes arrivé depuis 3 ans à l'UTC, c'est ça?
C'est ça.
Ça n'existait pas du coup avant, il y a plus de 3 ans
Il y a trois ans, il y avait cette UV qui existait, mais en format un peu plus court, plutôt en mode introduction,
découverte,
à l'éco-conception, découverte, initiation. Et là, on a essayé de la rendre un peu plus costaud et d'augmenter le volume horaire.
On va faire une courte pause musicale. On va écouter Pampa Folle, qu'on se retrouve juste après. C'est évidemment la semaine spéciale, semaine étudiante de la durabilité. On est vendredi et donc les émissions précédentes sont réécoutables sur le podcast sur www.graphite.net. Fighting blind silhouettes. Pampa Folk sur les ondes de Graphite 94.9, toujours en compagnie de Yacine Baouche pour nous parler de l'éco-conception dans cette semaine spéciale, semaine étudiante de la durabilité, un événement national qui a pris du coup son envol cette année à l'UTC, organisé par 6 étudiants. Je rappelle, l'UV s'appelle DD01 Séminaire Développement Durable et d'ailleurs on les a reçus lundi, donc n'hésitez pas à l'écouter cette émission. On parle encore donc de l'éco-conception. L'éco-conception aujourd'hui pour le citoyen lambda, pour le consommateur lambda, est-ce qu'on le voit? Est-ce que il est... D'ailleurs vous parliez que c'était défini par le consommateur, mais est-ce que vraiment aujourd'hui on peut voir l'éco-conception quand on est l'utilisateur final?
Alors, sur l'utilisateur final, l'élément le plus, je veux dire, le plus marquant pour identifier si un produit a été éco-conçu, c'est les écolabels. C'est actuellement l'un des seules certifications en termes d'affichage environnemental qui est vraiment crédible et qui mérite de s'y intéresser. Le logo est assez connu, c'est une fleur avec un petit label.
On le voit souvent sur les produits ménagers, sur les produits d'entretien, ce genre de choses. Mais il existe pour d'autres objets ?
Il en existe même pour la litière pour chat, donc ça c'est assez vague. Enfin, c'est assez vaste, plutôt comme écolabel. Et là, on a vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est des catégories de produits et ça va essayer de valoriser les 10% meilleurs de tous les produits qui ont les écolabels.
Donc, c'est quoi ? C'est des produits biosourcés ? C'est des produits tout, en fait ?
C'est un peu de tout. Par exemple, l'écolabel, il existe un écolabel sur les services hôteliers. Donc, on peut avoir un hôtel qui est certifié écolabel européen. Et parmi le cahier des charges, il y a une interdiction d'utiliser des mini-échantillons de gel douche et de shampoing dans les douches.
Il y a des distributeurs maintenant.
C'est des distributeurs. Les produits détergents qui sont utilisés dans l'hôtel sont aussi... doivent être aussi... Il y a une certaine liste qu'on ne peut pas utiliser.
Oui, souvent, maintenant, ils utilisent du vinaigre. Ça sent, quand on arrive dans des hôtels, ça sent le vinaigre. Également, il y a l'histoire des serviettes où ils expliquent que pour une serviette lavée, il y a un arbre planté. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Je crois que c'est Accor qui fait ça. Il y a aussi des systèmes où on essaye de mettre en évidence les serviettes qui ont été salies et pas, pour ne pas laver. Donc, toute cette somme de petites actions, en fait... contribue à un cahier des charges et si l'hôtel est capable de le respecter, qu'il en fait la demande, il peut bénéficier de l'écolabel. En tant que consommateur, je peux choisir un mode de consommation plus intéressant.
Du coup, vous avez fait, vous, en tant que consommateur, un choix. Est-ce que vous avez un téléphone Fairphone? Est-ce que vous avez une litière pour chat éco-responsable? Est-ce que...
J'ai pas de chat, donc j'ai pas eu cette question. J'ai pas un Fairphone, mais j'ai acheté un téléphone reconditionné.
Ok.
Qui est aussi une
aspect. Donc ça peut être l'alternative, ouais.
Une alternative intéressante et... je ne vis pas dans l'attente de la dernière mise à jour du téléphone. Donc je pense que c'est une bonne façon aussi de consommer.
Du coup, on y réfléchit quand on est enseignant ou juste on donne les clés aux étudiants et puis nous, finalement, on fait notre petit bonhomme de chemin avec nos iPhones. Et puis,
Après, je fais partie de la catégorie de personnes qui pensent qu'on ne peut pas avoir de cerveau, on ne peut pas avoir une dichotomie dans notre vie avec ce qu'on enseigne et notre mode de consommation à côté. Et ça, c'est un phénomène que j'ai retrouvé quand j'ai des tables rondes avec des industriels qui, eux, par contre, l'ont, vont être capables d'expliquer qu'ils font attention à leur production de déchets, qu'ils vont trier, consommer de bio, mais à côté de ça, ne vont jamais se poser la question, dans leur travail au quotidien, est-ce qu'ils peuvent faire aussi quelque chose pour l'environnement ?
Ouais, du coup, en gros, les industriels, c'est plutôt ce qu'on appelle le greenwashing. Donc aujourd'hui, c'est un peu une posture, quoi, pour certains.
Pour certains, c'est vraiment une posture et c'est dommageable. Mais je pense que c'est des choses qui sont en train de changer parce qu'on a des étudiants qui sont les futurs ingénieurs.
Oui, on l'a vu à l'UTC, donc avec des assos qui se créent. Par exemple, il y a Compiègne en transition, qui aujourd'hui essaie de faire la passerelle entre l'UTC et la ville. Là, cette semaine de la durabilité, comment ils vous l'ont vendu, cette semaine de la durabilité ?
Ils me l'ont vendu en fait en disant que c'était un peu l'occasion de valoriser tout ce qui se fait au sein de l'UTC pour pouvoir changer nos modes de production, nos modes de consommation. Et toutes les initiatives sur ce thème, à mon avis, sont à mener. On n'en fait jamais assez en fait sur ces questions.
En tant qu'enseignant-chercheur, vous êtes sans cesse en veille technologique, vous vous renseignez. Il existe des magazines sur l'éco-conception ou non ? Je sais qu'il existe des magazines sur l'accordéon, sur ce genre de choses. Alors peut-être qu'il y a des magazines professionnels sur l'éco-conception ?
Professionnel, pas vraiment, mais c'est vrai que j'essaye de suivre un peu ce qui peut se faire en actualité. Donc à la fois sur les nouvelles technologies qui vont avoir des impacts environnementaux plus faibles. Et je suis surtout à la recherche, j'allais dire, de success stories, d'exemples, j'allais dire, à la fois bons et mauvais pour pouvoir alimenter mes cours et essayer de rester dans l'actualité et pas parler de cassettes audio alors que c'est plus tellement quelque chose qui est...
Ça va revenir, attention, ça va revenir, les cassettes audio. Il y a une usine qui s'est relancée aux États-Unis, donc d'ici 5-6 ans, peut-être que comme le vinyle, ça va faire son essor. Aujourd'hui, il y a une étudiante, il y a Colombe Claubel, je crois, qui est aussi animatrice chez Graphite, qui cherche à récupérer des fonds pour aller visiter les éco-cités, plutôt des écolieux, des villes qui ont été éco-conçues. Vous en connaissez ? C'est plutôt les pays nordiques qui ont cette éco-conception ou
Ces pays nordiques, ça se développe pas mal. C'est assez étonnant, mais le milieu du génie civil et de l'urbanisme en général est beaucoup plus avancé que l'ingénierie mécanique. Donc, du coup, moi, j'ai fait mes...
Est-ce que c'est plus visible, peut-être ?
Plus visible, il y avait aussi une pression des collectivités locales, parce qu'une fois qu'un bâtiment est fini et qu'il faut le détruire, ceux qui doivent généralement assumer les coûts si ça a été mal conçu,
c'est la collectivité.
Donc il y a eu des réglementations qui ont été plus loin. Moi, j'ai fait une partie de mes études à Grenoble et on a énormément de quartiers qui sont dits éco-quartiers et qui sont intéressants. On réfléchit en termes de synergie, en fait, avec une production d'eau chaude à un endroit qui va alimenter un autre bâtiment, des isolations beaucoup plus performantes. C'est des sujets très passionnants à mener.
Grenoble est un peu une ville thèse, puisque c'est une ville qui est écologiste, je crois, qui tiennent la mairie. Et justement, ils ont retiré également les publicités, l'affichage lumineux, etc. C'est aussi des efforts qu'ils essaient de faire dans la ville. Quoi.
Ouais, parce que toujours sur l'environnement, c'est le cadre de vie. Et finalement, la publicité, c'est un impact de l'environnement et c'est une agression visuelle. Et pour toujours rester sur Grenoble, c'est aussi une ville qui est extrêmement polluée. Donc ça,
à cause des usines qui sont autour ?
Il y a les usines, mais surtout la géographie qui fait que...
Ouais, que c'est dans une cuvette.
C'est la cuvette, ouais. Et c'est assez flagrant.
Un peu comme à Lyon, où en fait la pollution en fait stagne sur la ville, il n'y a pas de possibilité de renouvellement d'air. La chaîne est plutôt bonne élève en éco-conception, vous le voyez, ou elle est dans la norme ?
J'irai dans la norme, je n'ai pas eu de sentiment plus particulier. Je pense que la place du vélo dans la ville n'est pas du tout prise en compte, ça, je pense que c'est une certitude et... Pour naviguer en vélo dans cette ville, je m'en rends compte.
C'est toujours plus compliqué dans les petites villes de concevoir en fait la ville en fonction du vélo. Au départ, on essaye un petit peu d'acclimater les voitures et puis ensuite on se rend compte que finalement d'aller en ville en vélo, c'est beaucoup plus simple. Même dans l'université, aujourd'hui, les vélos, les accroches de vélos ont été mis il y a peut-être un an ou deux. Avant, il n'y avait pas forcément autant d'accroches de vélos que de vélos mis à disposition pour les étudiants.
Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi une volonté politique à un moment donné. Où est-ce que la ville, rien que si on regarde l'organisation de Compiègne, je pense que ça illustre bien assez ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas de cinéma en centre-ville. Le seul cinéma, il est à l'écart. Y aller à pied, c'est pas possible. En vélo, c'est ultra dangereux. Il y a très peu de lignes de bus qui y vont. Donc la seule solution, si on veut aller au ciné, c'est de prendre sa voiture.
Mais par contre, la ville, c'est une des villes où le transport en commun sont gratuits. Depuis 20 ans, 30 ans, je crois.
Ça ne permet pas d'aller facilement au cinéma. C'est il y a ça. Des contradictions dans la commune.
Et pour l'UTC, il y a eu du coup des nouveaux bâtiments qui ont été créés. Est-ce qu'ils ont été éco-conçus ou vous ne savez pas ?
J'ai ça fait peu de temps que je suis ici, donc j'ai...
Sur le centre d'innovation, là, avec les devantures en bois, ça a été fait... Vous savez pas si ça a été fait pour l'éco-conception ?
J'ai pas suivi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nouveaux bâtiments doivent respecter des normes qui sont beaucoup plus fortes que les anciens, par exemple BF, en termes d'isolation, ce genre de choses.
Ouais, c'est le bâtiment le plus vieux qui est en centre-ville, où là, c'est de l'ancien béton, notamment avec parfois encore de la viande sous nos pieds, pour en dessous les moquettes. Mais donc, aujourd'hui, on est obligé de faire des conceptions un peu différentes. Du coup, les bâtiments publics ont une norme beaucoup plus, pas agressive, mais beaucoup plus précise que le citoyen lambda, ou pas du tout ? Est-ce que du coup, ils se mettent un challenge en plus, les politiques ? Parce que moi, je pense toujours à l'histoire des toilettes, où quand, à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Je trouve ça assez dingue. Et j'aurais imaginé que dans une université ou dans un bâtiment, dans une cantine scolaire, on aurait mis directement de l'eau récupérée. Surtout qu'en Picardie, c'est pas l'eau qui manque sur les toits.
Oui, ça pourrait être une initiative intéressante. J'ai déjà entendu parler de ce système de pouvoir recycler de l'eau. On a des problèmes sanitaires qui deviennent compliqués, c'est-à-dire que sur de l'eau non potable dans des toilettes, on va avoir de la contamination de germes qui est peut-être plus...
À retraiter derrière dans le système, ok.
Et c'est ça qui rend, je trouve, passionnant toutes ces thématiques-là, c'est qu'on a des nouvelles challenges et des nouvelles questions.
À chaque fois qu'on résout un problème, il y a un nouveau problème qui peut se mettre en place, quoi.
Et ce qui est frustrant ou passionnant, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, bah, on peut aller encore plus loin. Et c'est ça qui fait avancer, je pense.
Il y a des projets à l'UTC, des étudiants qui ont des projets, des startups qui vous ont contacté, qui sont en train de bosser là-dessus.
J'ai deux, trois étudiants, notamment une association qui s'appelle On veut durable, qui essaye d'adapter un produit qui a été fait par un designer hollandais, je crois, qui s'appelle Precious Plastic, où l'idée, ce serait d'essayer de recycler et réutiliser les déchets plastiques. Donc, c'est une conception de différentes machines avec un broyeur à plastique où on va venir broyer, faire des paillettes, et ensuite avoir exemple, une injection, pouvoir faire des objets soi-même, en fait. Et ça, c'est aussi une tendance qu'on a sur les aspects d'éco-conception. Quand on veut aller plus loin, c'est on devrait avoir des centres, une sorte de Fab Lab un petit peu partout, pour pouvoir, j'allais dire, produire nous-mêmes nos pièces, pas que quelque chose a été cassé, et plus être dépendant d'un industriel et d'un circuit logistique pour faire ce genre de pièces.
Aujourd'hui, il y a des marques comme Seb, la marque d'électroménager, qui proposent leurs pièces plus que, je crois que c'est 5 ans normalement, 5 ou 10 ans, qu'elles doivent être disponibles. Et en plus, ils fournissent également les plans pour refaire des petites pièces avec des imprimantes 3D. Donc, il y a quand même des industriels qui font cette démarche-là aujourd'hui.
Oui, qui sont intéressantes, mais ce qu'il faut ne pas oublier d'avoir, c'est toujours le besoin. Est-ce que... C'est bien d'avoir des produits qui peuvent être réparés pendant 20 ans, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir un blender, un mixeur ? Enfin, est-ce que j'ai besoin d'avoir... Je pense qu'un des exemples les plus intéressants, ça doit être l'appareil à raclette ou l'appareil à gaufres.
Tout le monde a un appareil à raclette.
On en a tous un, finalement. On va s'en servir peu par rapport à sa capacité. Donc, tout ce qui va être initiative de partage, de location, de ce genre de système est, à mon avis, intéressant.
Donc, dans les conceptions, on réfléchit aussi à comment organiser la vie en société. Justement, je sais que dans le nord de l'Europe, ils avaient fait des petites vignettes qu'on collait sur sa boîte aux lettres en disant « Chez moi, j'ai une perceuse, j'ai un marteau », notamment les outils où on n'a pas forcément tout le temps besoin des outils. Est-ce que conception ?
Bah, l'éco-conception, il y a plusieurs ampleurs. On peut prendre un produit et essayer de diminuer son impact un petit peu. Donc, on va alléger que certaines parties, on va changer 2-3 matériaux, mettre un moteur avec un meilleur rendement. Mais on peut aussi aller plus loin, et c'est ce qu'on essaie de voir, et de s'interroger sur le service. Un des meilleurs exemples, je pense, c'est les Vélo'bs. Vélo'bs à Lyon, Vélib à Paris. Finalement, on se dit, mais je vais peut-être pas concevoir un vélo, mais je vais essayer de concevoir la possibilité qu'a un utilisateur de faire du vélo. Et ça change totalement ma façon de consommer et de construire un vélo. Finalement, j'ai un vélo qui fait 10 kilos, alors qu'avant, j'en avais un plus léger. Oui, sauf qu'il sera rentabilisé sur beaucoup plus de monde.
Voilà, c'était un petit peu à double. Certains vélos qui ont été mal conçus, qui ne peuvent pas être réparables, qui aujourd'hui sont plus utilisés avec des difficultés pour les recycler. Voilà, on a tout le temps un petit peu le pour et le contre, quoi. Votre mémoire, ça a été améliorer les démarches d'éco-conception en prenant en compte les connaissances locales, c'est ça, votre mémoire ?
C'était ma thèse il y a quelques années, oui.
Ouais, du coup, c'est quoi les connaissances locales ? C'est en fonction de l'endroit où on habite, et, parce que j'ai vu que ça parlait de Dubaï, ça parlait de...
Alors, sur les connaissances locales, ma thèse, c'était simplement... On s'interrogeait sur... le constat de base, c'était que les entreprises volontaires, motivées, qui vont faire de l'éco-conception, on se rend compte qu'elles ont des difficultés à rendre ces démarches pérennes dans le temps. C'est-à-dire qu'elles vont réussir à le faire une fois, il y aura un one-shot qui va marcher, et les fois d'après, ils n'arriveront plus à réitérer ce type de démarche. Et tout ce qui va être connaissance locale, et on travaille plutôt sur l'aspect construction, c'est comment localement l'entreprise peut apprendre de ses précédents projets pour être capable d'être autonome pour en mettre des nouveaux.
On arrive à tout concevoir en local, les produits. Est-ce qu'aujourd'hui, si un industriel veut concevoir un produit de A à Z, il peut tout concevoir en local ?
On est capable de faire tout. tout, mais si on prend en compte l'aspect environnement, quelquefois, ce sera peut-être plus intéressant d'aller chercher un matériau en Allemagne plutôt qu'en local, parce qu'en Allemagne, ils auront des procédés d'obtention de ce matériau plus intéressants d'un point de vue environnemental.
Pour les téléphones portables, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il existe une marque qui est plus environnement friendly?
Bah, on a parlé tout à l'heure, Fairphone, c'est un exemple qui est vraiment très intéressant, parce que du coup, c'est une marque hollandaise qui ont essayé de faire ils ont réussi même à faire un téléphone qui va être à la fois environnemental et équitable. Donc, ils vont signer des accords avec les producteurs de métaux, de minerais qui viennent de terres de conflit. Mais ils ont été aussi plus loin sur la démarche environnementale et essayer de rendre le téléphone réparable. Et aussi, et c'est là que je trouve la démarche intéressante, évolutif. On le sait, les capteurs photos vont être de meilleurs. Donc, ça ne sert à rien de faire croire que l'utilisateur ne voudra pas un jour avoir un capteur photo de meilleure qualité. Bah, on lui donne la possibilité de changer juste cette partie-là ou de retirer le capteur photo pour mettre une batterie plus grande. C'est quelque chose qui est intéressant à faire.
C'est avec des options. On va écouter encore une de la programmation de Graphite, Aliénor, le titre de Massia. On se retrouve juste après. Et voilà pour vous réveiller ce matin, ce vendredi matin. Toute cette semaine, on a parlé du développement durable à l'UTC, on a parlé de la crise, de la démocratie, de la monnaie libre et du monde du logiciel libre en général, de l'économie de fonctionnalité. Et on termine cette semaine avec l'éco-conception, avec Yacine Baouche, pour parler donc d'éco-conception. Qu'est-ce que c'est l'éco-conception ? Comment on peut aujourd'hui inciter les industriels à éco-concevoir les produits, parce que c'est souvent le consommateur, en fait, le consommateur est un petit peu... Enfin, est-ce que c'est l'œuf et la poule? Est-ce que c'est le consommateur qui a un besoin et l'industriel le fait, ou est-ce que c'est l'industriel qui conçoit le besoin?
Ah bah, c'est les deux, ça va être...
ils se nourrissent.
Oui, ils se nourrissent mutuellement. Et, enfin, changer un comportement, c'est pas si facile, c'est facile à dire, mais on a quand même du mal en tant que consommateur à changer ses habitudes. Donc on cherchera toujours le prétexte pour pas le faire, et les industriels vont avoir exactement la même démarche.
Bah, il y a des choses très simples, hein. Il y a par exemple, au lieu d'avoir des bouteilles plastiques, de prendre des gourdes ou ce genre de choses, c'est des choses en fait en soi qui sont pas très compliquées. Nous à la maison, on est passé à la carafe Brita. Du coup, avant on buvait que des bouteilles d'eau en bouteille, maintenant ça marche plutôt bien, et puis on n'est pas malade, on n'est pas en train de cracher nos poumons avec le chlore. Donc comme quoi, on peut faire des petits efforts. Est-ce que c'est quoi l'effort le plus simple à faire pour un consommateur?
Ah, je pense que si on se place d'un point de vue d'étudiant, je pense qu'arrêter les bouteilles d'eau en plastique, c'est vraiment une première étape qui est vraiment intéressante. Et je pense que la question, en fait, je ne vois pas d'exemple concret tout le temps, mais c'est se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que les services rendus, est-ce que j'estime que c'est nécessaire de faire ça? Et si la réponse est oui, allez-y, garde ce mode de consommation. Mais qu'est-ce que j'y gagne à avoir une bouteille d'eau jetable tous les jours?
Souvent, c'est le facteur temps.
Facteur temps, le facteur argent.
On nous dit de ne pas prendre l'avion, mais voyager du coup, par exemple en bateau ou en train, c'est possible. Sauf qu'il faudrait beaucoup plus de vacances. Si on veut aller de l'autre côté de la Terre, voilà, c'est...
Oui, c'est un thème qui arrive souvent sur le voyage en avion. Moi, ça ne me marque pas et je ne l'estime pas prioritaire. C'est vrai que si je veux aller en Islande, bah, je vais quand même plutôt y aller en avion qu'en bateau. Par contre, c'est des questions qu'on peut se poser et je pense que les étudiants d'ici doivent se poser parce qu'une fois qu'ils seront diplômés, ils vont avoir un pouvoir d'achat qui vont quand même augmenter pas mal. Et la question, c'est est-ce que je fais Paris-Lyon? Est-ce que je le fais en avion, en train? Actuellement, bah, ils vont penser qu'au voiturage parce qu'ils n'ont pas forcément des moyens énormes. Mais dès lors qu'ils auront la possibilité, qu'ils diront « Ah bah tiens, si j'y vais en avion, tiens, ça va me prendre qu'une heure alors que sinon ça m'aurait pris 3 heures en train. » Ah bah peut-être que finalement, oui, mais la planète, on verra ça plus tard. Donc je pense que, est-ce que j'en ai besoin? C'est une question à se poser régulièrement.
Là, les étudiants qui arrivent, ils sont nés en 2000. Est-ce que vous aussi, les étudiants que vous avez, sont des étudiants de 2000 ou là, plutôt un peu plus âgés, s'ils sont en fin de cursus?
Ils sont plutôt en fin de cursus, donc ils sont
2005.
Plus, ouais, un petit peu plus âgés que ça. Ils sont vraiment, j'allais dire, aux portes du marché du travail. Et c'est bien qu'ils s'intéressent à ces questions-là.
Ouais, c'est plutôt 95, du coup, là. Ça serait plutôt 95, ceux qui sont en 95, 90, 95. 90, ils ont 30 ans, ils ont... Non, du coup, 95, c'est bien. Ouais, donc, ils ont pas connu, entre guillemets, le « c'était mieux avant », les tupperwares de mamie pour rentrer le week-end ou ce genre de choses, quoi. Ils sont habitués dans la consommation et dans la simplicité.
La simplicité, mais je trouve que si on essaie de les regarder un petit peu, je trouve que la relation à la propriété a changé aussi. Avant, on en parlait, les CD. Moi, j'ai acheté des CD, des physiques. J'avais ma collection de CD, j'y étais vraiment attaché. Eux, ils sont nés avec le streaming, ils ont vécu avec cet aspect-là. Donc finalement, posséder ou pas la musique, ça ne les intéresse plus. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la possibilité de l'écouter. Et grâce à ça, si on le retranspose à notre appareil à raclette de tout à l'heure, c'est une génération qui est capable de se dire « j'ai peut-être pas forcément besoin d'avoir mon appareil à raclette ».
Après, écologiquement, est-ce que le streaming est plus intéressant que le CD qu'on a chez nous?
C'est la question qu'on peut se poser. J'encadre une TX. Donc les TX, c'est des petits projets que les étudiants peuvent avoir sur un semestre. Où j'ai des étudiants de génie informatique, donc ce n'est pas du tout des mécaniciens, qui s'intéressent à ces questions-là. Et leur point de départ, c'est j'écoute 10 heures, est-ce que c'est bien ou pas pour la planète? Donc on est en train de réfléchir. C'est très difficile parce qu'obtenir des données de ces grands groupes, c'est compliqué.
Parce que derrière ces grands groupes, c'est de l'énergie, c'est des serveurs qui sont allumés.
Des data centers qui vont être stockés dans des pays, dans plusieurs pays pour avoir des copies de sauvegarde, qui vont consommer énormément d'énergie. Et la question, et on va se diriger vers, tout dépend du service. Si je veux faire une soirée qui a énormément de personnes, c'est peut-être intéressant d'avoir 10 heures plutôt qu'avoir une armoire remplie de CD. Enfin, toujours, ça dépend du cas d'utilisation.
Et sur les étudiants étrangers, est-ce que ça dépend de l'endroit d'où on arrive? Est-ce que vous avez des étudiants étrangers dans vos cours?
J'en ai, mais j'ai pas eu de point particulier. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on va concevoir des produits, quand on s'intéresse vraiment à l'utilisation, à l'usage du produit, l'aspect culturel est vraiment
important.
Est vraiment très fort.
C'est quoi le mauvais point pour les Français, s'il y avait un mauvais point ou un bon point?
Je ne me suis jamais posé la question sur cette comparaison, je ne sais pas.
Parce que là, le système, par exemple, le système de train, qui était quand même un système qui marchait plutôt bien, aujourd'hui en train un peu de péricliter, est-ce qu'on a encore des choses en France qui fonctionnent bien que d'autres pays peuvent nous envier?
Je pense qu'une des forces française, c'est qu'on a encore énormément de moyens de production, on a une agriculture qui est forte, c'est-à-dire que la notion de se fournir en local, on peut vraiment y aller, en fait. On a ce qu'il faut, les industriels n'ont pas d'excuses à se dire faut que j'aille me fourguer en Chine. En fait, non, on pourrait très bien le faire chez nous. Et je pense que ça, c'est une force qu'on a. On a un circuit logistique qui est bien développé. On a parlé du train, on a des ports, on a énormément, d'un point de vue industriel en France, les moyens d'assumer un mode de consommation et de production différent.
Hier, on a parlé d'économie de fonctionnalité. Du coup, l'économie de fonctionnalité est mise en parallèle avec l'éco-conception.
Oui, clairement, c'est un outil. Je vous disais au début, quand on veut concevoir un produit, on va peut-être éco-concevoir, on va changer 2-3 matériaux allégés. Et quand on commence à s'éloigner et à essayer d'être plus ambitieux sur la remise en cause du produit, on va arriver sur des solutions d'économie de fonctionnalité, mais qui sont à évaluer, parce qu'on parlait des Vélib tout à l'heure. Ben, un Vélib, on va concevoir un vélo qui est plus gros, donc qui a un impact plus fort que le vélo classique. On va avoir tout un système de gestion de données, donc on va avoir besoin de faire passer de l'information, des bornes à concevoir. On va avoir des systèmes qui vont déplacer les vélos, parce qu'on ne veut jamais monter le vélo en haut d'une colline, donc forcément, on a des voitures qui tournent la nuit pour remonter. Et il faut prendre tout ça en compte, évaluer pour pouvoir trancher est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir ce type d'économie.
Vous travaillez avec l'Hermitage ?
Pas du tout, je travaille pas du tout, mais c'est une initiative qui est vraiment intéressante. J'aime beaucoup ces lieux où on va expérimenter.
Parce que du coup, l'Hermitage, ils ont expérimenté, ils ont travaillé pour la ville de Soissons, où ils ont expérimenté un système de location de vélos du coup en libre. Alors contrairement aux vélos de JC Déco, en fait, ils sont arrivés à des coûts qu'ils ont quasiment divisé par 8 sur une ville comme Soissons. Donc en fait, le coût final peut être diminué en fonction de la personne qui va fournir le service.
Oui, complètement. Si c'est un industriel qui met en place une démarche même d'économie de fonctionnalité, il va aussi avoir son bout de gras à essayer de tailler. Par contre, sur l'Hermitage et tout ce qui gravite autour d'eux, la démarche low-tech est intéressante, où on se dit finalement, je veux vraiment ce service-là. Est-ce que j'ai besoin d'avoir telle ou telle fonctionnalité? Est-ce que je ne peux pas faire plus frugalement, plus simplement? Et c'est des points qui sont vraiment intéressants.
Est-ce que ça vous a posé des problèmes de conscience parfois dans votre vie de tous les jours?
Mais même dans ma vie de tous les jours, même dans ma façon d'enseigner, je me pose toujours la question. Par exemple, je leur demande de rendre un rapport, je demande de le rendre en format papier. Je me dis, alors papier numérique, quel est le meilleur élément à choisir? Donc, du coup, pour une des versions, je choisis en papier parce que je me dis que je peux mettre plus de notes et ils vont le garder et pouvoir relire. Par contre, sur le rapport final, je vais le demander en numérique parce que finalement, vu que je ne vais pas leur re-rendre, c'est des prises de tête quand même assez fortes.
Et vous en discutez avec d'autres enseignants, il y a des groupes de recherche, vous faites des réunions secrètes le soir pour savoir qu'est-ce qui est mieux écologiquement?
On ne fait pas encore ce genre de
ou
réunions.
Ou des apéros secrets. Hein, on peut...
C'est vrai qu'autour de bière ou de café, selon l'heure, on discute beaucoup sur ces aspects-là. Parce que, du coup, moi, j'enseigne une UV qui s'appelle éco-conception, mais la vraie solution, ce n'est pas de me refourguer en fait, et de me sous-traiter tous les aspects environnementaux, mais c'est que chaque enseignant, prenne cette thématique dans ses cours. Si je fais un cours de choix de matériaux, je peux prendre le critère environnemental. Si je fais du calcul mécanique, je peux prendre aussi ces aspects-là. Selon le matériau que je vais choisir, il faut qu'il soit résistant et moins impactant.
Donc du coup, vous discutez avec d'autres professeurs pour un petit peu adapter les cours pour qu'ils s'entrelassent bien ou pas?
J'essaye, c'est un combat de tous les jours. Chacun doit prendre sa part. Après, il y a une inertie d'un système scolaire et universitaire qui fait que...
D'une bureaucratie un petit peu, ouais.
Qui doit être mis en place, mais ça change. On a des enseignants, ce que je disais tout à l'heure, en fait, qui ont une conscience environnementale dans leur vie de tous les jours et qui aimeraient bien le traduire sur les enseignements.
Le tri, par exemple, à l'UTC, le tri ABF est arrivé il y a assez peu de temps, il y a moins de 2 ans. Donc pour l'université, c'était... Là, aujourd'hui, c'est Campus Vert. Maintenant, on a mis des bornes de rechargement de voitures électriques. Il commence à y avoir de plus en plus de voitures électriques qui s'installent à terme, justement, il faudra réinstaller encore des bornes puisque maintenant, il y a trop de voitures par rapport aux bornes. Vous avez pensé à acheter une voiture électrique ou pas?
Oui, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit.
Une Tesla ou plutôt une Zoé?
J'étais plutôt parti sur de l'hybride, tout simplement, parce que j'ai un appartement et contrainte, comment la recharger quand j'ai mon appart, enfin quand le garage n'est pas électrifié.
Il y a toujours des questions, en fait, c'est un questionnement perpétuel. Quoi. Là, aujourd'hui, ça serait quoi comment vous allez vendre l'éco-conception à vos étudiants? Est-ce que vous faites une présentation en début d'année pour leur expliquer un petit peu ce concept ou...
Non, je pense que j'ai la chance d'avoir une demande. Du coup, je n'ai pas besoin de tellement forcer les étudiants à venir ou forcément à faire de la pub, parce que ça aussi, ça poserait un cas de conscience, en fait. À quel moment je noie mon message en communication? À quel moment je passe en greenwashing quand je fais mon cours? Et dans les premiers cours que je fais, on traite de la définition de l'éco-conception. J'insiste sur le fait que c'est une UV, c'est un cours qui n'est pas là pour motiver les étudiants à faire de l'éco-conception. C'est là pour des étudiants qui veulent mettre en place ce type de démarche. Qu'est-ce qu'ils ont comme outil pour le faire vraiment concrètement ?
Ils arrivent à déceler justement le greenwashing des entreprises ou des entreprises sincères et puis des entreprises qui font plus ça parce que c'est un peu la mode ?
Ah oui, ils sont bons. J'ai déjà fait des tables rondes avec, sur ces thématiques-là avec un industriel qui noyait le poisson et qui ne voulait absolument pas montrer en avant ce qu'il faisait d'un point de vue environnemental. Et finalement, c'est les étudiants qui lui ont fait remarquer qu'il exagérait un petit peu dessus. Donc, ils ont un esprit critique qui est très fort. Et l'intérêt, c'est qu'ils ne le perdent pas.
Oui, il évolue et puis il s'affine peut-être avec le temps. Oui. C'est quoi la marque la plus éco-responsable aujourd'hui que vous connaissez ?
Je ne pense pas qu'il y ait de marque. Je le dis toujours, c'est le besoin. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces...
Ok, donc c'est le consommateur qui fait que ça devient éco-responsable, quoi. On va écouter un extrait musical, ça s'appelle Sympacide, c'est dans la prog de Graphite et on se retrouve juste après. Sympacide dans la matinale de Graphite en ce vendredi. Vendredi 7 avril, normalement, si je dis pas de bêtises. Toujours une semaine spéciale, semaine étudiante de la durabilité, s'appelle SEDD. Ça se déroulait du 1er au 7 avril à l'UTC, mais pas seulement à l'UTC. Et aujourd'hui, on parle d'éco-conception. On a parlé les jours précédents de l'économie de fonctionnalité, du monde du logiciel libre, de la crise de la démocratie et notamment de comment on peut changer de démocratie directe comme on a aujourd'hui et du développement durable à l'UTC pour lundi. Comment on évalue en fait ? C'est quoi la grille d'évaluation de l'éco-conception ? Comment on peut évaluer aujourd'hui un produit ?
Mais on en parlait tout à l'heure sur le fait que l'environnement, c'était une notion complexe, mais qu'on pouvait le traduire sous forme de différents indicateurs. Et il y a une méthode d'évaluation environnementale qui est très intéressante, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, ou ACV, qui commence à se répandre un petit peu, elle commence à être connue. En fait, on va être capable de prendre en compte tout le cycle de vie du produit, donc à la fois l'extraction des matières premières, donc si on a utilisé du plastique, si ce plastique a été injecté, donc la partie fabrication, comment il a été livré, sur quelle distance, avec un camion, un bateau, un avion, comment il est utilisé, s'il consomme de l'énergie. Donc on va rentrer tout ce type d'informations sur le logiciel, aussi comment il va être traité en fin de vie, est-ce que ça va en déchetterie ou est-ce que c'est recyclé. Et on va avoir la réponse des graphiques qui vont nous donner en fait les impacts sur ces différents indicateurs.
Donc des graphiques à différents facteurs, quoi, c'est ça ? Ouais.
Différentes colonnes, un par indicateur. On va pouvoir regarder quels sont les indicateurs les plus impactés, quelle est la phase de vie qui est responsable du plus d'indicateurs. Et ça nous aide en tant qu'éco-concepteur pour savoir où mettre les efforts, en fait. Est-ce qu'il faut que je travaille sur l'extraction et les matières ou sur la partie utilisation ?
On parle aussi des éco-participations, là, quand on achète un objet pour que son cycle de recyclage soit mis en place. Vous avez un peu de retour là-dessus. On a pu voir à la télé, notamment, je crois qu'il y a eu une émission là-dessus qui expliquait que l'objet, en fait, partait pas forcément dans un cycle de recyclage normal. Parfois, il était détourné. On peut le retrouver dans les pays en voie de développement pour soit récupérer des matières, notamment tout ce qui est cartes électroniques, l'or, le cuivre, etc. Est-ce que vous avez des retours là-dessus, un petit peu, sur...
Ça fait partie du cadre réglementaire. Il existe peu de réglementations en environnement, mais tout ce qui va être éco-participant, c'est un truc qui est encore concret. Ce qu'on appelle globalement le principe du pollueur-payeur. Un jour, l'État a dit, les collectivités ont dit, ouais, en même temps, c'est vous qui, l'industriel, c'est vous qui produisez, donc c'est à vous de payer ça. De façon un peu cynique, les industriels, du coup, ont souvent remis cet éco-participant sur le coût du produit. Et c'est vrai qu'il y a des abus qui peuvent exister sur la façon de retraiter. Mais c'est déjà une bonne étape. C'est qu'avant, les industriels étaient convaincus que leurs produits, à partir du moment où ils sortaient de leur usine, ce n'était plus leur responsabilité. Et maintenant, on est capable de leur dire, en fait, non, c'est vous qui êtes aussi responsable de la fin de vie de votre produit.
Là, vous travaillez avec des industriels ou vous enseignez uniquement ? Est-ce que vous avez des liens avec les industriels ? Est-ce qu'ils viennent vous poser des questions là-dessus ? Est-ce qu'il existe, c'est quoi ? Il existe des boîtes qui font du conseil sur l'éco-conception ?
Oui, c'est foisonnant parce qu'en fait, vu que c'est une thématique qui se développe, mais où les ingénieurs sont peu formés, du coup, il y a vraiment un manque. Donc, il y a des cabinets de conseil, des consultants qui vont exister. Après, à notre modeste niveau, on a aussi des industriels qui sont venus nous voir. Par exemple, au semestre dernier, on a travaillé avec Decathlon. Donc, ils nous ont posé des questions sur une paire de rollers pour enfants. C'était comment éco-concevoir ça. Et du coup, j'ai deux étudiants qui ont travaillé sur tout un semestre pour évaluer le produit, donc essayer de voir où étaient les impacts, et ensuite proposer différents concepts de reconception. Donc, on a essayé d'évaluer si on changeait la production, elle a été faite en Chine, en disant si on la rapproche, si on la fait en Pologne, qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que les mix énergétiques ne sont pas les mêmes ? Les transports sont raccourcis ? Enfin,
les mix énergétiques, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils utilisent du charbon et puis du nucléaire, c'est ça, par exemple ?
Ça, en Chine, ça va être 70% d'énergie à base de charbon. Et on s'est dit, on va rapatrier ça en Europe pour voir. Mais par exemple, on s'est rendu compte que le mix énergétique en Pologne est plus proche des Chinois que des Français. On a des transferts d'impact qui peuvent évaluer. Donc, on a regardé un peu la relocalisation. On a essayé d'évaluer si on réduisait certaines parties, certaines pièces. Il y avait trois roues. Si on passait à deux roues, qu'est-ce que ça changerait en termes d'impact ? Du coup, on a produit des choses qui sont, à mon avis, très intéressantes et qui peuvent aider Decathlon à revoir leurs produits sur ces aspects-là.
Ensuite, c'est un cahier des charges que vous envoyez à des designers et puis ils redesignent un produit. C'est comme ça le cheminement un petit peu pour la production d'un
objet ? Dans le cheminement, là, c'était vraiment Decathlon qui nous sous-traitait cette partie-là. À la fin, les deux étudiants ont proposé deux, trois pistes en leur disant on vous explique, si vous faites ça, ça et ça, vous aurez plus intérêt. Donc maintenant, le boulot de Decathlon, c'est, par exemple, s'ils veulent changer le nombre de roues, c'est à eux de voir, de chiffrer, est-ce que ça leur coûterait cher de changer les moules d'injection plastique, mais ils ont les bases pour savoir, potentiellement, ça peut gagner tant d'impact.
Ouais, la R&D en fait, de Decathlon est en France. Et souvent, ils prennent des étudiants en plus. Apparemment, c'est un gros technocentre où il y a plein de terrains de sport, on peut faire plein de sports différents. Donc,
ils sont assez dynamiques, Decathlon, sur ces questions-là. Et ils sont aussi motivés, en tout cas sur les dernières stratégies d'entreprise, sur l'aspect de réduction d'impact. Donc, ils cherchent, ils vont chercher sur les aspects d'éco-conception. Ils vont regarder aussi du côté du biomimétisme pour voir s'il y a des choses qui ne pourraient pas être adaptées.
Notamment sur les suites de bain, la suite de bain, là, comment ça s'appelle, truc pour les nager, par exemple, où ils le font en espèce de peau de poisson pour être
nageurs. Pour être performant. Donc, il y a tout ce qui est sur le accessoires de randonnée, tout ce sport-là, finalement, les consommateurs, en fait, ils sont demandeurs. En même temps, j'allais dire, ça paraît évident, si je fais de la randonnée, c'est que j'aime bien la nature, donc j'aimerais bien avoir un produit qui la pollue pas trop, ou que je peux pouvoir réparer.
Sauf quand on fait du 4x4 ou ce genre de choses.
Oui, c'est un autre aspect.
On peut faire des 4x4 peut-être bio conçus. Là, où est-ce qu'on peut trouver vos recherches? Est-ce que vous avez un blog? Alors déjà, votre thèse, on la retrouve sur Internet, hein, très facilement, en tapant votre nom. Est-ce que vous écrivez? Vous tenez une documentation?
Non, pas personnellement. J'estime que, j'allais dire, c'est plus à moi de faire ça. J'essaie de pousser les étudiants, en fait. Donc j'encadre beaucoup de projets, j'invite les étudiants souvent à venir me voir s'ils ont des projets, parce que je pense que c'est à eux de faire bouger les choses. Je ne veux pas être donneur de leçons, je veux essayer d'être motivateur pour faire ça.
Et là aujourd'hui, les projets qui sont en cours, on peut en parler, ou c'est secret défense?
Certains sont confidentiels, donc on ne peut pas en parler, mais j'en disais tout à l'heure sur un projet qui s'avère assez prometteur sur l'écoute Internet, en fait, se poser la question de tout le cheminement derrière qu'on a le streaming, qu'est-ce qu'un data center, où sont les coûts environnementaux. Sur des coûts qui sont cachés.
Ouais, comme Netflix, qui est apparemment en période de grosse affluence, c'est un consommateur énergétique énorme. Ouais. Surtout que les films sont du coup mis dans plusieurs data centers pour éviter qu'il y ait des crashs, etc. On en parlait justement avec Stéphane Croza de ce système-là. C'est la fin de l'émission de la matinale, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez pris l'émission en cours de route, vous pourrez la réécouter en podcast. Nous aussi, on a des serveurs et des clouds pour podcaster les émissions. N'hésitez surtout pas à les télécharger et à les écouter. On vous souhaite une bonne après-midi, bon week-end. Merci beaucoup d'être venu, et puis on espérera vous revoir peut-être dans l'année pour parler de l'éco-conception. Et évidemment, j'invite les auditeurs à se rapprocher, par exemple, de l'Ermitage, hein, si vous voulez donner un petit peu de votre temps et puis vous intéresser à certaines choses. Il y a également le Fab Lab du TC, hein, je crois que c'est ouvert aux extérieurs, donc vous pouvez leur envoyer un petit message. Ils ont une page Facebook. Bon après-midi, bon courage si vous allez au boulot, et puis nous, on se donne rendez-vous lundi. Et la semaine prochaine, eh bien, on sera au Printemps de Bourges pour le Printemps de Bourges. Voilà, c'est le début du Printemps de Bourges. Bonne journée et puis à très bientôt sur le 94.9.
bien que l'on sorte. Hélas, il faut que l'on accepte qu'en passant cette porte,